BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite un débat inédit en l'absence de Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, face à Jean Perlevaz. Et oui, vous allez voir, ça va être électrique. Et puis, nous retrouverons comme d'habitude nos rubriques, hein, le coup de cœur de la rédaction, nos flopé de chiffres et d'études. N'oubliez pas tous nos comptes, la librairie de l'écho sur tous les réseaux sociaux pour retrouver la liste détaillée des livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. La France peut-elle retrouver le chemin de la croissance et plus encore le chemin de la prospérité? Oui, c'est possible, répondent nos invités du jour, mais peut-elle aussi retrouver le chemin d'une prospérité partagée qui ferait à nouveau le bonheur d'une classe moyenne malmenée depuis la fin des 30 glorieuses évidemment, retour de la prospérité qui ne ramènerait de la sérénité politique et sociale dans le pays? Eh ben, c'est possible aussi. Ils sont trois à nous le dire aujourd'hui. D'abord, Antonin Bergeot. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Antonin, vous êtes professeur à HEC, lauréat du prix du meilleur jeune économiste français de 2025 et vous publiez La prospérité retrouvée chez Odile Jacob. Vincent Bourdeau, bonjour.
Bonjour.
Vincent, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie sociale et politique à l'université Marie et Louis Pasteur et vous publiez Pourquoi avons-nous besoin des classes moyennes? C'est chez Armand Collin. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, c'est Jean Perlevaz qui viendra apporter sa contribution aussi à ce débat. Lui, il publie La France du populisme au chaos, également chez Odile Jacob. Et ce sera face donc à Jean-Marc Daniel. On commence avec vous, Antonin Bergeot. La prospérité, attention, c'est bien plus que la croissance.
Oui, la prospérité, c'est plus que la croissance, mais la prospérité, ça ne peut pas se faire sans croissance. Par contre, c'est une croissance, effectivement, qui n'est pas une croissance subie, qui est en accord avec les valeurs de la population. En l'occurrence, en Europe et en France, il y a des valeurs qui sont très marquées, environnementales, en termes de protection du consommateur. Et donc, la prospérité, c'est une croissance qui se fait sans aller imiter, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis ou en Chine, où là, il y a de la croissance, contrairement à, justement, ce qu'on a en Europe.
Alors, déjà, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a peut-être une voie européenne de retour à la prospérité. Mais si on s'interroge sur le retour à la prospérité, c'est que cette prospérité, on l'a perdue. Et pourquoi l'Europe l'a-t-elle perdue?
Oui, on a perdu la prospérité. Alors, on a perdu la prospérité en premier lieu parce qu'on n'a plus de croissance, très peu. Aujourd'hui, la croissance du produit intérieur brut en France est 1%. Mais en fait, ramené au nombre d'habitants, c'est presque rien. Et quand on regarde ce qui a fait cette croissance, c'est essentiellement le fait qu'on a travaillé un petit peu plus chaque année depuis 10-15 ans. Donc c'est une croissance qui a été faite, mais au prix de mettre en emploi une partie plus importante de la population, ce qui n'est pas tellement ce qui a été fait dans le reste de l'histoire, et notamment la période des 30 Glorieuses, qui est une période de prospérité, parce qu'il y a eu à la fois de la croissance et en même temps des retombées positives pour la population. À ce moment-là, la croissance se faisait en même temps qu'une réduction massive du temps de travail.
Mais ça, c'est parce qu'il y avait des gains de productivité.
Exactement. C'est-à-dire que pendant qu'on s'est enrichi considérablement, on a pu à la fois réduire le temps de travail et augmenter notre niveau de vie parce que le travail est devenu de plus en plus efficace. Déjà parce qu'individuellement, les gens sont devenus plus efficaces, mieux formés, mieux entraînés, mais surtout parce que collectivement, on est devenu plus efficace. Le travail s'est accompagné de technologies, de machines plus performantes. On a réfléchi au mode d'organisation et la structure sectorielle de l'économie est progressivement passée de l'agriculture à l'industrie puis aux services. Tout ça, ça a permis de créer plus de valeur économique avec moins de travail. Et pendant ce temps-là, en fait, on s'est enrichi. On a augmenté la protection sociale, réduit le temps de travail sans se rendre compte qu'en fait, ça coûtait parce qu'on s'enrichissait en même temps grâce à la productivité.
Donc, alors la productivité, comme dit Paul Krugman, ça n'est pas tout, mais à long terme, c'est quand même presque tout. Donc c'est ça, c'est le cœur, c'est le ressort du progrès au sens large, tel qu'on l'a connu depuis le début de l'histoire de l'humanité, on est d'accord?
Oui, et surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, la productivité, alors c'est effectivement le principal facteur explicatif de la croissance sur longue période. Donc, c'est ça qui explique l'enrichissement de la plupart des pays quand on regarde sur le temps long. Et aujourd'hui, la productivité, c'est un peu le seul levier qui reste, parce que l'alternative à augmenter la productivité pour avoir la croissance, c'est d'augmenter ce qu'on appelle les facteurs de production, donc le travail et le capital. Or, le travail, on en aura de moins en moins, parce que la démographie fait qu'on aura de moins en moins d'actifs. Et le capital, on a plutôt tendance à se dire qu'il faut arrêter d'accumuler du capital, parce que ça crée une empreinte assez pesante sur l'environnement.
Cette époque que vous citez des 30 Glorieuses, c'était une époque de progression massive de la productivité. Or, quand on regarde finalement décennie par décennie, ces gains de productivité ne cessent, en France et en Europe, de diminuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on est arrivé au bout finalement de des bénéfices de certaines innovations et qu'il va falloir attendre une nouvelle vague d'innovation pour relancer ces gains de productivité? Ou est-ce que cette productivité, elle est venue d'autre chose, d'organisation de la société, de différents choix collectifs par exemple?
Alors, il y a une partie des gains de productivité colossaux qu'on a connus dans les 30 Glorieuses qui n'est plus possible à obtenir, ou plus souhaitable. Une grosse partie venait du fait qu'on avait des sources d'énergie très abondantes, ouais, et très polluantes. Et par ailleurs qu'en fait, on avait une phase de rattrapage très rapide vers notamment les États-Unis qui, eux, dominaient énormément le monde économique pendant la période des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on a le même retard pratiquement avec les États-Unis en Europe, mais évidemment, on n'a plus les mêmes leviers de la croissance. On ne veut plus continuer à augmenter notre empreinte environnementale pour créer de la productivité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si on enlève cette partie qu'on ne peut plus retrouver? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement en Europe, on a abandonné la politique industrielle, on a abandonné l'idée que l'innovation, la technologie et surtout l'adoption de ces technologies se faisait pas de manière spontanée si on laissait faire le marché. Dans les années 80, l'idée derrière de faciliter la construction européenne, on a en Europe laissé le marché faire, on a retiré aux États la possibilité d'aider les entreprises, d'aller diriger l'innovation, avec une idée vraiment que c'était la façon d'éviter le plus possible une mauvaise allocation des facteurs, ouais, de production. Ce que les États-Unis, qui pourtant étaient l'image du libéralisme, n'ont pas du tout fait à l'époque, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ça conduit à plusieurs échecs industriels qui nous ont conduit à rater très clairement la troisième révolution industrielle qui se dessinait à ce moment-là, l'informatique, le micro-ordinateur, etc., qui ne se sont pas diffusés en Europe aussi rapidement qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe plusieurs décennies plus tard, on a eu une adoption beaucoup plus lente de ces technologies, une formation de la population qui a été plus lente, et on estime que la moitié du décrochage européen par rapport aux États-Unis, qui en gros commence dans les années 90, s'explique par cette trop lente diffusion des technologies, notamment numériques. Le problème, c'est que les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi en Europe, le marché n'a pas réussi en Europe finalement à prendre le relais des États et à diffuser et à construire ces technologies, sont à peu près tous présents aujourd'hui encore, alors qu'on voit arriver l'intelligence artificielle et qu'on se dit qu'il nous faut une politique d'intelligence artificielle en Europe. Donc, ce qui a changé finalement, c'est qu'aujourd'hui, on a pris conscience que l'État avait un rôle à jouer, que l'État avait un rôle pour organiser l'innovation, pour financer une partie de l'innovation, mais surtout pour mettre en place toutes les institutions qui favoriseraient le financement privé de cette innovation qui, en Europe, reste insuffisant par rapport aux États-Unis. Donc, on se remet à faire de la politique industrielle. On en reparle de plus en plus. Mais la difficulté, c'est que faire de la politique industrielle à 27 États, puisque c'est au niveau européen aujourd'hui qu'il faut faire ces investissements, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile qu'à un pays, ce qu'on a su faire pendant les 30 Glorieuses en France.
Mais donc, est-ce qu'on peut... Alors, on voit bien qu'on est, on n'a pas les recettes de la Chine, on n'a pas les recettes des États-Unis, on n'a pas les aspirations non plus de ces pays-là. Est-ce qu'il peut exister finalement un chemin européen, voire français, de retour à la prospérité?
Je pense qu'il existe un chemin européen de retour à la prospérité. Aujourd'hui, les technologies qui font la croissance américaine, c'est les technologies numériques, américaines et chinoises d'ailleurs essentiellement. Ces technologies numériques, elles ont ce qu'on appelle des rendements d'échelle croissance, c'est-à-dire que plus vous êtes dominant, plus c'est facile pour vous de rester dominant.
Oh, mais là, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espoir, ce que vous dites là.
Si, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors si on pense que l'intelligence artificielle, c'est ce qui va générer des gains de croissance dans le futur, en tout cas, je pense que globalement, on est d'accord pour penser qu'il faut une politique de l'IA en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a énormément de retard par rapport aux États-Unis et la Chine en IA. Ils investissent des sommes qui sont absolument délirantes. Et en Europe, on n'a pas les capacités de le faire. On a encore beaucoup de freins qui font qu'il n'y a pas suffisamment d'argent privé qui va dans le financement de ces innovations. Mais en Europe, on a nos spécificités. On a une volonté de protéger beaucoup plus le consommateur, le citoyen. On protège plus nos données, on est beaucoup plus attentif à la vie privée, au respect de la vie privée et à l'environnement. Or, aux États-Unis, on commence à voir un retournement de la population contre ces IA qui font augmenter le prix de l'énergie, qui consomment de l'eau, qui créent des tensions sur les ressources naturelles, qui utilisent des données personnelles et qui, par ailleurs, viennent menacer les emplois, mais pas d'une manière, pas sur des emplois, pas sur des tâches qui sont des tâches que les gens n'aiment pas faire, mais aussi sur des tâches que les gens voulaient plutôt préserver. Et donc, vous commencez à avoir de plus en plus d'anxiété, de nervosité aux États-Unis vis-à-vis
de... Vous nous dites qu'il va y avoir une fronde anti-intelligence artificielle.
En tout cas, puisqu'on ne peut pas suivre la course à ces IA qui sont très performantes et qui coûtent des centaines de milliards de dollars chaque année pour être entraînées, allons vers justement ce qui va être demandé en Europe et peut-être dans le reste du monde, c'est-à-dire des IA qui sont un peu plus frugales, un petit peu plus respectueuses des données privées et surtout souveraines, c'est-à-dire qui ne vont pas envoyer des données dans le reste du monde. Il y a un énorme marché européen qui va être de plus en plus gros pour ce genre d'intelligence artificielle. Et je pense même qu'il y aura un marché mondial qui va se retourner là-dessus. Mais d'une manière générale, l'idée que j'essaie de développer dans le livre, c'est n'essayons pas d'imiter ce qui se fait ailleurs. Cherchons la troisième voie, une troisième voie qui est cohérente avec ce que les citoyens européens veulent et ce qu'ils veulent préserver. La difficulté, c'est que ce qu'on veut préserver, pour l'instant, c'est ce qui nous coûte de la croissance. On est dans cette situation un petit peu compliquée où on essaie de tout préserver en même temps. On veut un marché du travail hyper protégé, on veut du loisir, on veut préserver l'environnement.
Mais vous le dites d'ailleurs, dans votre, vous dites un des handicaps de la France et de l'Europe, c'est que finalement, on ne prend pas assez de risques, on n'ose pas assez prendre de risques.
On n'ose pas assez prendre de risques en partie parce qu'on a des institutions qui pénalisent très fortement le risque. Savoir si c'est les Européens qui sont plus averses au risque ou pas, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, si vous prenez un risque, vous allez le payer beaucoup plus cher que dans le reste du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réussir à lever. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de la DARPA, qui est une agence fédérale américaine qui finance l'innovation. La DARPA a un chèque en blanc, pratiquement.
Et qui est en partie à l'origine d'Internet.
Qui est à l'origine d'énormément de technologies, le GPS, Internet, etc. Et qui marche très bien. La DARPA, on la laisse complètement libre de financer les innovations qu'elle veut. Et si elle se trompe, si elle se plante, en fait, c'est même vu comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'elle a pris suffisamment de risques. En Europe, vous avez des institutions qui sont comparables à la DARPA, le Conseil européen d'innovation, par exemple, mais qui, lui, va être pénalisé très fortement s'il a pris trop de risques et s'il a eu un taux d'échec supérieur. Et la conclusion, c'est la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en Europe, vous allez financer des projets sûrs, à des niveaux de développement suffisamment avancés pour qu'on sache qu'il y a peu de risques que ça échoue, alors qu'aux États-Unis, on va prendre beaucoup de risques. Et vous allez avoir beaucoup d'échecs, mais quand ça va marcher, ça a marché fortement. On l'a vu avec le Covid, le vaccin a été produit grâce à des financements américains. Il y a eu 2 vaccins qui ont marché, 5 qui ont échoué, mais on ne parle jamais des 5 qui ont échoué. L'important, c'est qu'il y en ait qui aient fonctionné.
Pour faire la transition avec Vincent Bourdeau, on parlait des 30 glorieuses de ces années de forte croissance, forte productivité, fort progrès, grande prospérité. Est-ce que ces 30 glorieuses... ça n'est pas une parenthèse finalement dans l'histoire. J'y viens parce que finalement c'est la grande période qui a vu émerger la classe moyenne, vue comme un grand facteur de stabilité politique, sociale, etc. Est-ce que l'émergence de cette classe moyenne, ça n'est pas finalement une anomalie de l'histoire? Est-ce que finalement à l'échelle du temps, l'histoire c'est pas des riches et des pauvres?
Alors, je vais laisser Vincent Bourdeau répondre sur la question de la classe moyenne, mais en tout cas, sur ce qui est sûr par rapport à votre question sur les 30 glorieuses, c'est que oui, pour moi, c'est une parenthèse, parce que les taux de croissance qu'on a atteints, c'est 5% par an de productivité, 7% de PIB par habitant.
Parce qu'attendez, quand vous dites prospérité, moi, je comprends aussi quand même harmonie sociale dans prospérité. Donc, est-ce que le modèle que vous nous préconisez demain, c'est aussi le retour d'un, alors peut-être pas d'un âge d'or, mais d'une période meilleure pour la classe moyenne?
Moi, ce que je préconise, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'avec 0% de croissance, il n'y a pas de prospérité possible, parce que si vous voulez faire un investissement, vous devez prendre de l'argent quelque part. Donc, vous ne pouvez pas réduire les inégalités et en même temps avoir une politique d'investissement pour l'environnement, etc. Si vous avez de la croissance, et on ne parle pas de 5%, si on était à 2% de croissance, on n'aurait pas la moitié des débats qu'on a aujourd'hui sur le budget ou sur la question des dépenses sociales.
Vincent Bourdeau, cette question, pareil, la même. Est-ce que les classes moyennes, c'est... finalement un produit étrange de cette période un peu particulière qu'ont été les 30 Glorieuses, ou est-ce que, au contraire, c'est le sens de l'histoire ?
Alors, en tout cas, historiquement, la présence des classes moyennes dans des écrits d'analyse de la société ou des écrits politiques, on le trouve dès Aristote. Aristote, dans les politiques, il parle d'une possibilité de relation égalitaire entre citoyens et non pas un rapport de pouvoir qui serait fondé sur une domination des uns sur les autres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation égalitaire entre citoyens ? Ben, c'est une relation qui suppose une certaine homogénéité dans la cité. Donc, les citoyens, c'est ceux qui sont des égaux. Et ça, ça suppose une certaine mesure, qui est une vertu pour lui, et une certaine moyennisation de la société. Alors évidemment, on parle d'un cercle étroit, c'est celui des citoyens. Hein. Dans la cité grecque, il y avait en dehors des citoyens tout un tas d'autres intervenants. Mais si on va un peu plus loin, après la Révolution française, quand on met à bas une société d'ordre, on essaye de repenser les physiocrates, l'ont fait, les premiers économistes, les saint-simoniens, les premiers socialistes, repenser la société à partir des fonctions réelles qui font tenir debout une société, les fonctions économiques. C'est là qu'on invente le langage de la classe ou des classes sociales. En fait, les classes sociales, au départ, c'est des classes liées à certains types de revenus qu'on tire de telle ou telle activité. La classe moyenne est celle, contrairement aux rentiers, qui sont parfois décrits comme des oisifs, va tirer la majeure partie de son revenu du travail.
C'est ça, au fond, la définition qu'on peut donner de la classe moyenne. Parce qu'en fait, c'est très compliqué quand on regarde. Essayer de trouver une définition avec les chiffres, avec les revenus, avec la catégorie sociale, avec la profession, c'est quand même très compliqué.
C'est compliqué et on a effectivement tout un travail. J'ai essayé de le faire dans le premier chapitre de mon ouvrage. Travail de défrichage à faire pour essayer de comprendre qui a pu dire quoi autour de ces classes moyennes. Certains proposent même de rejeter le concept, etc. Mais ce qui me paraît sûr, c'est qu'il y a un discours qui émerge, qui est celui de dire que la classe moyenne, c'est une classe de l'entre-deux, donc ce ne sont ni les classes défavorisées, ni les classes favorisées. Alors ça peut se mesurer économiquement en essayant de regarder autour du revenu médian, en prenant une fourchette, 75-150% autour du revenu médian.
Donc ça fait des revenus. Trop pauvre pour être riche, mais trop riche pour être pauvre.
Voilà, mais c'est vrai que c'est déjà très ample, puisque ça nous en renvoie un plancher qui serait à 1 600 €, un plafond à 3 200. Donc il y a déjà un écart important, et 1 600 €, c'est assez peu au-dessus du SMIC. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est autour de cette question de la classe moyenne, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de valeurs qui lui sont associées. C'est l'idée que c'est une classe qui vit exclusivement des revenus de son travail, qui aspire à partir de ses revenus à accéder à une forme de petit capital, une propriété privée, son logement, et qui pense que pour ses enfants, l'avenir sera meilleur que celui qu'elle a connu. Donc qui est orienté sur la question de l'ascension sociale, et donc l'école va jouer un rôle important comme lieu d'investissement par les classes moyennes de ce que l'on peut espérer pour ses enfants.
Alors, moi j'avais une vision de la classe moyenne très idéalisée. Je disais, voilà, c'est finalement l'espèce de rêve de toute une partie de la société, appartenir à cette classe moyenne, c'est confortable, on a réussi dans la vie finalement, souvent si on appartient à cette classe moyenne. Or, vous présentez quand même quelques visions extrêmement décapantes de la classe moyenne. Alors, je pense aux travaux de Georges Deherme, dont vous dites, en fait, lui considère que les classes moyennes, c'est un facteur de désintégration de la société, alors que moi j'y voyais un ciment. Vous citez Nathalie Quintane qui vous dit ça, il ne faut pas parler de la classe moyenne, mais de la classe médiocre. Ça m'a bien secoué les neurones.
Alors là, vous citez deux perspectives historiques un peu différentes. Deherme, c'est le début du XXe siècle, et il voit dans les classes moyennes des parasites, parce que justement, il commence à introduire une forme de logique de distinction, c'est-à-dire de remettre en scène la question de la séparation entre les classes, à partir justement du parcours qu'on pourra avoir en monopolisant certains titres scolaires, etc. Et celui qui a le mieux théorisé ça au début du XXe siècle, c'est Edmond Gobelot, dans un ouvrage qui s'appelle « La barrière et le niveau » et qui est encore aujourd'hui considéré par les sociologues comme un des premiers à décrire ce que Bourdieu appelait la logique de la distinction. Mais Nathalie Quintane, c'est un discours plus récent, « La médiocrité ici », c'est un discours qui est relativement en porte-à-faux avec l'usage positif qui, au XVIIIe siècle, avait encore lieu autour de la médiocrité. Quand Rousseau évoque la médiocrité, il évoque quelque chose de positif. Il évoque un certain type de rapport frugal à l'existence. L'idée de ce que Michelet, au XIXe siècle, appelait la suffisante vie. Donc, il y a une forme de sobriété. Et l'idée que la classe moyenne serait seulement une classe de transit, enfin, c'est un lieu où on est censé passer pour aller vers quelque chose de mieux, c'est une idée, finalement, somme toute, assez récente. Il y a eu, dans les années 70, on parlait des 30 Glorieuses, un espèce de retournement où on a cessé de penser la classe moyenne seulement négativement, c'est-à-dire elle n'est pas les classes populaires, elle n'est pas les classes bourgeoises ou les classes aisées, mais on ne savait pas la définir en propre, positivement, qu'est-ce qu'elle est. Et là, on a commencé à voir que, justement, les classes moyennes donnaient un peu le ton de la société avec un certain nombre de valeurs propres à la classe moyenne qui commençaient à se répandre. Oui, et moi, ces valeurs-là, je les vois du côté de la solidarité et du lien.
Mais c'est ça, parce que finalement, alors vous dites, il y a toujours eu dans les classes moyennes une fibre révolutionnaire. Et on se dit aujourd'hui, mais finalement, elle est passée où, cette fibre révolutionnaire de la classe moyenne? Quand on voit les critiques qui sont formulées, donc par certains auteurs sur finalement cette classe qui s'est vautrée un peu dans le consumérisme, dans l'individualisme aussi, puisque ce que vous décrivez vous comme étant censé être une société du lien est devenue une société en fait de l'égoïsme et du repli sur soi.
Ben, je pense qu'il y a un malentendu initial. J'évoquais tout à l'heure le citoyen de la Grèce ancienne. Le citoyen, qu'est-ce qui sont ses qualités? C'est qu'il est un propriétaire terrien, donc on voit déjà l'idée d'une propriété privée. Il est quelqu'un qui porte les armes pour défendre la cité, et il est quelqu'un qui ne doit pas dépendre des autres. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'idée d'indépendance qui est associée à ce citoyen qui appartiendrait à cette classe moyenne qui gouvernerait le mieux, selon Aristote. On retrouve ça plus tard. Sieyès aussi pensait que c'était les classes moyennes qui devaient gouverner la société pendant la Révolution française. Et donc, qu'est-ce qui se joue là-dedans? C'est qu'en réalité, on pourrait penser que cette indépendance, c'est juste un projet individuel, un projet personnel. Ouais. Or, cette indépendance, c'est une bonne manière de se rapporter aussi aux autres, sans être soi-même dominé par autrui et sans soi-même vouloir dominer autrui. Donc il y a une volonté d'indépendance, mais qui est en fait une meilleure manière de penser le lien avec les autres. Et il me semble que la classe moyenne, elle est animée par cette ambition-là, y compris dans les professions du lien qui sont les siennes, ouais. Enseignants, soignants, etc., qui ont massivement explosé dans les années ouais. 70 et qu'on voit aujourd'hui comme un problème, hein, cette part de la fonction publique.
Oui, mais donc la classe moyenne, c'est bien le ciment d'une société. Parce que vous dites aussi, personne n'a plus intérêt que la classe moyenne à avoir des institutions solides, je veux dire, des réglementations non partisanes, etc., etc.
Ce que je dis à propos de la classe moyenne, c'est que c'est une classe qui considère non pas qu'il faut se placer hors des institutions existantes, mais qu'il faut rappeler les institutions à leurs promesses initiales. On le voit très clairement autour de l'école. C'est-à-dire que même Bourdieu, qu'on décrit comme celui qui a critiqué l'école comme un lieu de reproduction sociale, en fait, cette critique de Bourdieu, elle n'est pas possible si Bourdieu lui-même n'avait pas un imaginaire classe moyenne, républicain, et s'il ne pensait pas que l'école avait pour vocation non pas à faire du tri social, mais à amener chacun à pouvoir atteindre une place jugée souhaitable dans son intégration de la société. Et donc ma proposition autour des classes moyennes, c'est aussi une proposition politique, c'est de dire aussi, pensons l'intégration, qui est un terme extrêmement fréquent dans nos débats politiques, publics, etc., qui agite beaucoup d'idées et parfois de fantasmes, pensons l'intégration autour de ce qui est au cœur de ces classes moyennes, à savoir leur attachement au travail bien fait et à la possibilité d'avoir une prise sur l'exercice de son métier. Je crois que rien n'est plus déceptif pour les classes moyennes que le fait de se voir sans cesse imposer des normes extérieures à la pratique réelle de leur métier, que ça n'est le cas depuis un certain nombre de réformes qu'on court depuis une vingtaine ou une trentaine d'années.
Donc, c'est quoi les réformes qu'il faudrait mener pour je sais pas, pour redonner de l'oxygène finalement à cette
Pour moi, la réforme, c'est classe moyenne. La plus importante, c'est celle que le président Macron lui-même avait annoncée pendant la crise Covid. En fait, c'est une réflexion sur la place du travail dans nos sociétés et la place de ce qu'il appelait les professions essentielles, non seulement ce qu'il appelait la première ligne, puisqu'on était dans une crise sanitaire et donc c'était les soignants, mais il avait mis l'accent sur la seconde ligne. Et dans la seconde ligne, on retrouvera un ensemble de professions qui sont massivement associées aux classes moyennes. Et donc ça nécessite de développer quelque chose comme une interconnaissance sociale, peut-être de faire le tri aussi entre des métiers qui vont être jugés porteurs d'une possibilité d'équilibre pour la société et d'autres qui le seraient moins. C'est-à-dire qu'au fond, il faut politiser une question qu'on laisse aujourd'hui au marché. C'est-à-dire qu'est-ce qui décide aujourd'hui?
Allez, politiser une question qu'on laisse au marché et qu'on laisse à la technologie. Puisque si On comprend finalement ce qui se joue autour de l'intelligence artificielle. La seule certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que comme toutes les grandes révolutions technologiques, elle va aboutir à une réduction du temps de travail, en fait. Concrètement, donc comment tout ça se télescope? Comment on télescope finalement la nécessité de remettre en place? Alors pour le coup, l'intelligence artificielle va... s'il y a bien des métiers qui vont gagner finalement à l'intelligence artificielle, ce sont tous ces métiers irremplaçables, en fait. Tous ces métiers...
Alors, est-ce que justement ces métiers ne seront pas en partie protégés? Est-ce qu'on peut remplacer une infirmière?
Bah non,
est-ce
justement.
Qu'on peut remplacer un enseignant? Alors, certains disent que oui, mais on a bien vu ce que ça a fait du côté de la jeunesse, pour travailler à l'université, avoir vu mes étudiants dans la situation post-Covid, mais ça a été le cas ailleurs. On a bien vu que la jeunesse a souffert d'un mode d'enseignement qui était extrêmement orienté sur des outils technologiques et à distance. Donc ce lien-là, au contraire, c'est peut-être quelque chose qui va être réactivé. On voit aussi qu'il y a une forme de retour à un goût pour une production indépendante, artisanale, alors qui est peut-être certes peu viable économiquement, mais là encore, des philosophes, des économistes proposent un certain nombre de pistes et de solutions. Je pense à Christian Asperger, qui évoque l'idée d'un revenu citoyen, mais qui serait adossé à l'idée que l'activité qu'on pourrait faire serait une activité qui favoriserait la transition socio-écologique, des formes de liens, l'équilibre de la société. Donc, il y a des pistes, elles sont nombreuses, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette direction.
Voilà, du lien de la productivité, quelques pistes pour que demain, la France redevienne un pays prospère. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Vincent Bourdeau, Pourquoi avons-nous besoin des classes moyennes? C'est chez Armand Collin, Antonin Bergeot, La prospérité. Retrouver les leviers de la croissance au 21e siècle. Et ça, c'est chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Vous aurez nos rubriques habituelles, le coup de cœur de la rédaction, nos études de la semaine. Mais tout de suite, on retrouve dans un exercice exceptionnel Jean-Marc Daniel qui va croiser le fer avec Jean Perlevade. On est ravis de vous accueillir, Jean Perlevade. Je vous l'avais promis au début de l'émission, je vous avais dit voilà. On aura finalement un troisième invité qui viendra nous apporter lui aussi sa vision des solutions pour remettre la France sur le chemin de la prospérité. C'est vos propositions, Jean Perlevade, dans La France du populisme au chaos, chez Odile Jacob. Je rappelle, Jean Perlevade, que vous êtes polytechnicien, vous avez été quand même, parce que, il faut le souligner, le maître de conférence de Jean-Marc Daniel à l'école polytechnique.
Tout à
et
fait.
Que vous avez toujours voulu avoir cette carrière d'enseignement en parallèle de votre carrière, oui. Qui par ailleurs a bien été bas remplie, puisque vous avez été directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy lorsqu'il était Premier ministre. Vous avez été président de Suez, de la Banque Stern, de l'UAP, du Crédit Lyonnais. Et donc, vous savez ce que c'est que l'entreprise. C'est le cours que vous dispensiez à Polytechnique. Jean-Marc Daniel, qu'avez-vous pensé de ce livre, de ce dernier livre de Jean Perlevade, La France tombe du populisme au chaos?
Alors d'abord, j'ai retrouvé ce que j'avais constaté quand j'étais jeune étudiant à l'école polytechnique, ouais. Et que Jean Perlevade était mon enseignant, c'est-à-dire ses qualités à la fois pédagogiques et sa rigueur intellectuelle, c'est-à-dire sa capacité à faire partager ses idées, mais surtout à asseoir ses idées sur des éléments factuels. C'est-à-dire, le rôle de l'économiste, normalement, c'est de s'asseoir sur des données, des chiffres fournis par le statisticien, mais de faire en sorte que ses arguments soient les plus fondés possibles.
Est-ce que sa vision de la société a changé?
Alors, sa vision de la société a plus ou moins changé, mais pas tellement, non. Il y a quand même cette idée que le véritable enjeu, et c'est tout le thème du livre, c'est de préserver l'entreprise. C'est là que se passe l'activité économique, c'est là que se crée la richesse, c'est là que effectivement naît l'avenir et d'un pays. Dans le couloir, j'évoquais un conte de Voltaire, où Voltaire disait qu'en fait, dans la société, il y a un combat entre le froc et la charrue. Le froc, c'est les gens qui vivent au crochet des autres en leur racontant des histoires et des billevesées. Et la charrue, c'est les gens qui travaillent. Et Jean Perlevade, c'est le défenseur de la charrue. Alors, son livre est en trois parties. Une première partie qui est le diagnostic, avec des données chiffrées, quelquefois un peu difficile à suivre. Il faut s'accrocher. Il parle du partage de la valeur ajoutée, de ce qu'on représente effectivement dans l'évolution des dépenses publiques, l'évolution de la partie sociale, l'évolution des parties de l'État, l'évolution de la partie des collectivités territoriales, comment tout ça a évolué. Ensuite, il y a une deuxième partie à partir de ce diagnostic qui est les remèdes, et en particulier toute une partie sur les fausses bonnes idées. Il y a un chapitre qui est assassin sur la taxe Sudman, dont on se demande pourquoi il n'a pas été davantage relayé, enfin là il vient de paraître, mais pourquoi ces arguments n'ont pas été davantage développés au moment où la taxe était au centre du débat politique. Et puis une troisième partie qui est un peu plus courte sur le problème institutionnel de la Ve République. Alors le bilan de tout ça, c'est effectivement cette idée que on a une situation dans laquelle on a substitué grosso modo la dette au travail, et les gens qui ont été les plus en première ligne, les véritables victimes de tout ça, ce sont les entreprises, c'est-à-dire que la classe politique, le monde politique, l'État vit au crochet des entreprises d'aujourd'hui par des impôts, des entreprises de demain par la dette. Et donc le message, c'est il faut rétablir la compétitivité, se remettre à travailler et essayer de redresser le plus rapidement possible nos finances publiques.
Alors, moi, ce que j'ai aussi compris dans votre livre, Jean-Pierre Lemaitre, c'est que la toile de fond, c'est quand même votre angoisse de voir l'extrême droite diriger la France. Et votre livre s'appelle « Du populisme au chaos », mais je me suis dit, mais ça aurait pu aussi s'appeler « Du chaos, qui est la situation actuelle, au populisme ».
Non, parce que le chaos, pour moi, on va le vivre vraiment le jour où il y aura une vraie crise financière, probablement, qui obligera les autorités politiques de l'époque, quelles qu'elles soient, à affronter une réalité qu'aujourd'hui, elles nient. Populisme, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est juste dans la phase où, d'un côté, extrême-gauche, M. Mélenchon promet un programme de réforme qui, de mon point de vue, est complètement destructeur. De l'autre côté, le Rassemblement national qui, lui, a un programme très gentil pour tout le monde, tellement gentil pour tout le monde d'ailleurs qu'il n'y a aucune solution envisageable sur les problèmes français tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, la partie sérieuse, la partie dite de gouvernement, n'arrête pas de se réduire. Et donc, l'influence populiste aujourd'hui sur la vie de la société française s'accroît. Et ce qui m'a poussé à écrire ce bouquin, à essayer de clarifier les choses le plus possible pour l'ensemble des Français qui peuvent être intéressés, c'est que tous les Français auxquels je parle, y compris de la classe sociale à laquelle j'appartiens, sont perdus. Ils ne savent pas où on est. Ils ne comprennent pas la situation. Ils ne comprennent pas pourquoi nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes.
Alors, avant de redonner la parole à Jean-Marc, moi, il y a quand même un point qui m'a frappé dans votre livre, c'est que une grande partie des solutions que vous esquissez pour remettre la France justement sur le chemin de la prospérité, de la croissance et de la paix sociale, c'est plus dans les process de décision que dans les visions philosophiques de chacun finalement sur sa vision de ce qu'est la France. Vous dites ce qui bloque aujourd'hui, c'est la façon dont la France est organisée, c'est la façon dont la France prend ses décisions, c'est la façon dont notre démocratie fonctionne.
Oui. Vous avez raison, je vais y revenir. Mais en amont, ma première constatation, qui m'a incité à travailler vraiment beaucoup sur le fond, pour essayer de comprendre moi-même, avant de transmettre, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un homme politique qui s'exprime publiquement en donnant un vrai diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic. Donc, nous ne savons pas où nous sommes. Les Français sentent bien qu'il y a des problèmes, ils sentent bien que la France est plutôt, sur le plan économique, en déclin relatif par rapport à nos voisins ou à nos concurrents, mais ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Donc, ma première étape, la plus difficile pour moi d'ailleurs, c'était de construire un diagnostic. Les solutions viennent après. Alors, comme aucun homme politique aujourd'hui n'est capable de donner un diagnostic, comment voulez-vous qu'il donne des solutions ?
Qu'est-ce qui est le plus original chez Jean-Pierre Lemaitre, Jean-Marc Daniel ? C'est son diagnostic ou c'est ses solutions ? Mais ou c'est les deux?
Je dirais les deux. D'abord, sur le diagnostic, je trouve intéressant, c'est qu'il dit que l'économie n'est pas forcément une science au sens strict du terme, c'est une méthode. Et donc, on rejoint ce qu'on disait ouais. dans cette histoire des décideurs, de la façon dont agissent les décideurs. C'est-à-dire que il y a cette idée que cette méthode, qui est une méthode qui se veut scientifique, qui devrait être scientifique, n'est plus partagée par les décideurs. Donc, il y a le fait que... Alors, il rappelle que sur les 8 présidents de la 5e République, il y avait 6 fonctionnaires et 2 avocats, et que dans les fonctionnaires, il n'y en avait qu'un qui avait fait une étude, des études scientifiques, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, il rappelle effectivement aussi que dans notre analyse et dans la façon dont on appréhende les choses, en général, on se berce de mots, mais on va jamais jusqu'au bout. On regarde jamais, malgré les statistiques, malgré les données qui sont là. La deuxième idée que je trouvais assez intéressante, c'est que il faudra faire des efforts. Il y a un moment où il dit, écoutez, il est probable qu'il faudra augmenter les impôts. La TVA est un outil. Mais personne n'a le courage d'aller jusqu'au bout. Et quand on parle d'augmenter les impôts, c'est sûr, là aussi, un fantasme. Donc, dans le chapitre sur la taxe Zucman, encore une fois, il y a une analyse de la façon dont on mesure ce que c'est un ultra-riche à partir des données de l'INSEE. C'est assez saisissant. Il dit, voilà comment l'INSEE construit ses échantillons. Voilà ce que représente en réalité les gens dont parle Zucman. Et la dernière remarque que je ferai dans ces éléments, c'est qu'il y a aussi une partie qui n'est pas exclusivement économique. Il y a cette troisième partie qui est assez courte sur l'aspect institutionnel. Alors, et sur le rôle du Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'on a dérivé vers... Il rappelle que finalement, le président de la République est un monarque, mais au sens de l'ancien régime. Il a plus de pouvoir que Louis XVIII.
Jean-Pierre Levade, est-ce que c'est les hommes politiques français qui sont moins courageux que dans les pays où on a réussi justement à demander des efforts à la population, ou est-ce que c'est les Français qui sont particulièrement ingouvernables par rapport à leurs voisins qui ont su accepter des efforts comme les Espagnols, les Italiens ou les Suédois en leur temps?
Je vais répondre de manière un peu habile. Ma réponse, nous avons deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la sous-compétitivité de notre appareil productif. Et celle-là, ses racines, et ça a été une découverte pour moi, ces racines sont des racines historiques. Donc, tout le monde est coupable, si je puis dire. Pourquoi ? Vous remontez en 1945, au moment de la création de la Sécurité sociale. Ambroise Croizat est ministre communiste, c'est lui qui met en place le nouveau système de Sécurité sociale, et il prononce quelque chose de magnifique. Chacun cotise suivant ses moyens et reçoit selon ses besoins. Magnifique phrase qui a été reprise par M. Mélenchon il y a 10 jours. Comme si elle était vraie. C'est un mensonge absolu. C'est-à-dire que dès le début, dès 45, oui, chaque citoyen reçoit selon ses besoins, mais c'est pas les citoyens qui payent, c'est le système productif, ce sont les entreprises. Et les chefs d'entreprise de 45, ils osent rien dire parce qu'ils sont soupçonnés de complicité avec le pétainisme. Et donc, les entreprises françaises sont surimposées par rapport à toutes leurs concurrents européens. Et ça monte dans le temps. Ça monte jusqu'à Balladur, où ça devient insupportable. Les entreprises commencent à réagir, donc Balladur commence à baisser doucement les cotisations sociales. Rocard, un peu avant, s'était aperçu qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, donc avait fabriqué la CSG. Mais à partir du moment où on ne peut plus continuer à taxer les entreprises pour financer les dépenses de sécurité sociale, eh ben, on va chercher de la dette. Mais vous voyez, c'est une raison historique profonde.
Voilà, bon, par quoi on commence, Jean-Pierre Levade, en 2027?
D'abord,
les réformes essentielles.
C'est de rétablir la santé de l'appareil productif. Donc, c'est d'alléger les prélèvements sur les entreprises. J'aurais tendance à dire que la première mesure à faire, c'est de réduire d'à peu près 2 points de PIB les impôts de production,
oui,
qui n'ont aucun sens.
Oui, ça les adule pratiquement, quoi.
Oui. Et qu'il faut compenser par une augmentation de TVA.
Jean-Pierre Levade, cette gauche libérale que vous incarnez, elle n'existe pas
aujourd'hui? Non, elle n'existe plus.
Aujourd'hui.
Elle n'existe plus, elle a été tuée par... elle a toujours été minoritaire.
Ouais.
J'ai réalisé, si vous voyez, après mon passage à Matignon en 81-83, à quel point nous étions minoritaires, en fait. Le tournant de la rigueur, qui a été un exploit qui a évité une catastrophe absolue pour la France, on est passé tout près du désastre, Aujourd'hui, nous sommes critiqués pour ce qu'on a fait à ce moment-là. Donc nous sommes minoritaires. Jacques Delors et Pierre Mauroy sont sortis d'ailleurs du champ politique, persuadés qu'ils n'arriveraient à rien. Et l'évolution du Parti Socialiste est une confirmation absolue. J'ajoute que comme Olivier Faure vient de décider que le Parti Socialiste n'était plus social-démocrate, d'une certaine façon, il a tué la candidature et de François Hollande et de Bernard Cazeneuve.
30 oui. secondes de conclusion, Jean.
Oui, 30 secondes de conclusion. Justement, moi, j'ai l'habitude de dire que à gauche, il y a les Jacobins, les Robespierristes et tout ça. Il y a ce que j'appelle les léninistes lénifiants, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'opposition, ils sont léninistes et tout ça, et quand ils sont au pouvoir, c'est plutôt de la dette, c'est assez lénifiant. Et puis, il y avait cette gauche social-démocrate, cette gauche que je qualifiais de feuillante par référence à la Révolution, où il y avait Benjamin Constant, Gambetta, Pierre Mendès-France, et Emmanuel vient de le dire, elle a disparu. Et au début du livre, vous dites, je fais ce livre parce que le précédent n'a pas eu l'écho que j'espérais. Est-ce que vous pensez que celui-là peut avoir de l'écho, ou est-ce que finalement ce combat est un combat qui est un peu désespéré, à défaut d'être désespérant?
Allez, très vite, Jean Perlevan.
Non, c'est la situation qui est devenue désespérante, d'où le noircissement de mon propos, depuis la dissolution. Mon précédent bouquin est avant la dissolution. Macron a cassé tout le système politique français et le fonctionnement du Parlement. Donc, voilà, on est dans l'impasse.
Merci Jean Perlevat, c'était un plaisir de vous accueillir avec votre ancien élève, Jean-Marc Daniel.
Qui s'en félicite encore.
Vous voyez, ça l'a bien formé.
Voilà. J'ai fait de l'économie grâce à des gens comme Jean Perlevat.
La France du populisme au chaos chez Odile Jacob. Allez, tout de suite, l'étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho. L'étude de la semaine.
Et l'étude de la semaine, c'est une bonne nouvelle pour les actifs qui ont enfin fini de travailler pour financer la pension des 17 millions de retraités que compte la France. C'est ce qu'ont calculé deux économistes qu'on connaît bien à BFM Business. Erwan Tison, le directeur des études de l'IDEP, et Maxime Sbahi, qu'on avait reçu pour ses balançoires vides ici dans la librairie de l'Écho. Et nous sommes avec Erwan Tison. Alors, Erwan, vous arrivez donc à cette conclusion. Bonjour. Depuis le 4 mai, les actifs ont fini de travailler pour financer la retraite des 17 millions de retraités que compte la France. Comment est-ce que vous arrivez à cette conclusion ?
À regarder la fiche de paye d'un salarié, hein, on a regardé tout ce qui était contributif et qui concernait la retraite. Donc là-dessus, on arrive, si on prend vraiment tout dans une logique assez maximaliste, à environ 29% du salaire super brut. Et à cela, en fait, on a ajouté la partie de la CSG et la partie des cotisations maladie qui financent directement la retraite, la santé directement des retraités.
D'accord.
Donc en fait, en regardant en prorata, on a vu que ça représentait environ 37% du super brut de chaque salarié.
Sachant, Erwan, que les dépenses de santé des plus de 60 ans, finalement, c'est à peu près la moitié des dépenses de santé en France.
Du total, c'est 25% des effectifs, 50% des dépenses. Et en fait, on a converti ces euros en temps, le temps étant de l'argent, hein, vous connaissez la maxime de Churchill, et on s'est retrouvé en fait à devoir mécaniquement regarder sur un calendrier à quel moment correspondait le moment où les actifs avaient fini de travailler, non pas pour eux, mais pour les seniors. Et on est arrivé donc du coup au 4 mai.
Alors, soyons clairs, d'abord, c'est un record historique en France. Et on est aussi presque proche d'un record, pas presque mondial, on va le dire.
En tout cas, temporellement, on a fait les deux comparaisons, temporelles et géographiques. Temporellement, effectivement, cette année, c'est un record. En 1970, c'était le 27 février. Et il se trouve qu'en 2015, on était aux alentours du 17 avril. Donc, en l'espace de moins de 10 ans, on a quand même perdu, si j'ose dire, plus de 15 jours de travail. Et si on compare en Europe, c'est là où c'est assez intéressant. Ceux qui font pire que nous, c'est les Italiens. Eux, ils se libèrent le 15 avril. Mais si je prends d'autres pays, on va dire à la démographie, à la taille similaire à la France, les Allemands, par exemple, se libèrent le 28 mars, les Portugais le 26 mars, les Pays-Bas le 23 mars, la Suède le 20 mars, la Norvège le 12 mars, les Irlandais et les Danois aux alentours du 2-3 mars, la Belgique se libère le 14 mars, le Royaume-Uni le 16 mars, les Espagnols le 22. Donc en fait, on se retrouve vraiment dans à la fois en étant les pires d'un point de vue temporel, mais aussi des pires d'un point de vue géographique. Ça tient principalement à plusieurs raisons. Il y a notre faible démographie qui fait ça, Maxime l'a très bien expliqué dans la plupart de ces derniers essais, qui fait qu'aujourd'hui, mécaniquement, on a un système de retraite qui est profondément déséquilibré, et le choix qu'on a fait d'avoir un système qui soit purement par répartition, parce qu'on remarque quand même que les pays qui ont introduit une dose de capitalisation se libèrent quand même plus tôt, parce qu'ils ont des systèmes où chaque euro dépensé est quand même plus performant que chez nous.
Alors justement, ça c'est un point important, Erwan, sur lequel je voulais insister, parce que on pourrait se dire, et c'est un peu la même chose pour les dépenses de santé, on pourrait dire, oui mais attendez, là, on prend ce que chacun cotise, finalement, de façon quasi obligatoire, mais on pourrait vous objecter que dans d'autres pays, on cotise peut-être moins au régime obligatoire, mais on est quand même un peu obligé aussi de cotiser sur ses propres deniers.
Oui et non, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment un périmètre constant, c'est-à-dire tout ce qui est obligé, tout ce qui sort vraiment de la poche des salariés pour financer leur système. Je prends un exemple qui, pour moi, est l'exemple le plus limpide, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils se trouvent en fait qu'ils ont un système de retraite qui est beaucoup plus performant que celui de la France en termes de taux de remplacement. Ils ont un taux de remplacement qui est aux alentours de 100%. Taux de remplacement, c'est le montant de la pension par rapport au dernier montant du salaire versé. Et ils ont un taux de dépenses publiques qui est à 7%. De défi de dépenses publiques pour les retraites, alors que nous, on est aux alentours de 14. Pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux? Parce qu'en fait, ils ont fait le choix, dans des périodes où vous avez des creux démographiques, de faire financer une partie de leur retraite par de la capitalisation, mais obligatoire et collective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est inscrit dans leur compte public, donc c'est considéré là aussi comme des transferts obligatoires. Mais eux, là où justement, nous, on a un taux de rendement qui est quasiment nul, parce qu'en fait, chaque euro prélevé est immédiatement versé, eux, chaque euro va travailler, d'accord, en tout cas sur des fonds de pension et sur les marchés financiers, donc du coup va mécaniquement générer beaucoup plus que ce qu'il a, la valeur qu'il a été prélevée. Donc ça montre en fait cette comparaison que les pays qui ont fait le choix d'avoir des systèmes qui sont vraiment basés sur le fondement même du capitalisme, et tout simplement, non seulement ils ont des taux de remplacement supérieurs à celui qu'on a en France, mais en plus ça pèse beaucoup moins sur le travail. Donc du coup, il y a à la fois une augmentation du pouvoir d'achat des salariés, mais aussi une augmentation du pouvoir d'achat des retraités.
Merci beaucoup Erwan Tizon, donc co-auteur avec Maxime Sbahi de cette étude sur le jour de libération des actifs. Merci beaucoup Erwan, à très vite. Merci. Sur BFM Business.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Le bureau est-il devenu un actif chroniquement sous-évalué en France en 2026? C'est la question que pose Charvie, la start-up française spécialisée dans la gestion des espaces de bureaux dans sa troisième étude annuelle sur l'immobilier de bureaux en France menée auprès de 300 entreprises. Du côté des bureaux, les taux d'occupation plafonnent entre 35 et 45%, deux fois moins qu'avant le Covid. Pourtant, chaque poste de travail continue de coûter en moyenne 11 000 euros par an, tandis que jusqu'à 60% des surfaces restent inoccupées. Côté parking, le paradoxe est tout aussi frappant. Ils sont occupés à 70%, et malgré tout, ils sont perçus comme saturés parce que mal gérés. C'est vraiment cette gestion des bureaux et des parkings, un poste de coût dont les entreprises vont devoir s'emparer pour améliorer la rentabilité dans les prochaines années.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui, cette semaine, de notre éditorialiste international, Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Mathieu, vous nous emmenez dans le Grand Nord aujourd'hui avec ce livre qui avait été remarqué à sa sortie en août 2024, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, dans un contexte évidemment de tensions géopolitiques en Europe. C'est aux éditions Michel Lafon. De quoi est-il question dans Les guerriers de l'hiver, Mathieu?
En fait, on est en 1939, Emmanuel, et la Russie attaque la Finlande. C'est ce qu'on appelle la guerre d'hiver, un épisode peut-être un petit peu plus méconnu de l'histoire. On va suivre le héros qui s'appelle Simo, le jeune Simo qui est un paysan devenu tireurs d'élite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simo, il a vraiment existé. C'est devenu un héros national. Les Russes l'ont même surnommé la mort blanche. Il est né en 1905, Simo. Il chassait depuis l'enfance dans les forêts de Carélie, en Finlande, ce qui en a fait un tireur et un homme des bois hors pair. Et il est considéré aujourd'hui peut-être comme le sniper le plus redoutable et le plus efficace de l'histoire militaire. On va le suivre. Il va tuer plus de 500 soldats soviétiques en seulement 100 jours de guerre, par des températures qui vont jusqu'à moins 40 degrés. Vous allez voir, il va développer même des techniques, des tactiques, où en fait, il se déguise tout en blanc, il se fond dans la neige. Et sa méthode à lui, c'est qu'il tire à l'œil nu. Il ne prend pas de viseur, comme ça il évite les reflets pour se faire repérer. Et quand il tire, il mange de la neige et il garde de la neige dans la bouche pour ne pas faire sortir de la vapeur d'eau et se faire repérer. Voilà quelques-unes de ces techniques de Simo. Simo qui est mort en 2002, à 96 ans. Les Soviétiques puis les Russes l'ont toujours cherché, ils l'ont jamais retrouvé.
Incroyable cette histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... finalement, David peut résister à Goliath.
Ben c'est ça, c'est qu'en fait, ça nous raconte l'histoire de la Finlande qui a résisté pendant 105 jours contre un pays qui était 47 fois plus peuplé, l'Union soviétique, et 66 fois plus grand. Et on va voir pourquoi est-ce que l'armée rouge vacille. Il y a deux principales raisons. C'est que déjà, Staline avait fait une énorme purge et s'était séparé de ses meilleurs officiers. Donc, il s'est retrouvé en gros avec quelques guignols qui prenaient des décisions totalement suicidaires en Finlande. Et puis l'autre, c'est que cette armée rouge, elle va se retrouver face à des Finlandais qui ont... une âme finlandaise qui s'appelle le Sisu. Alors ça, c'est totalement intraduisible. C'est l'âme de la Finlande. C'est ce qui fait qu'un paysan qui se bat pour ses terres a un avantage sur l'agresseur. Alors, à l'arrivée, au bout de 105 jours, la Finlande a dû finalement signer un traité de paix. Ils étaient épuisés. Ils ont dû céder un bout de leur territoire, la Carélie, aux Russes. Mais ça montre quand même une certaine résilience. On voit que l'armée rouge a perdu de 125 à 170 000 hommes face à une nation qui était infiniment plus petite. Et surtout, c'est cet épisode finlandais qui finalement était analysé à l'époque par l'Allemagne nazie, où ils se sont dit, bah, finalement, les Soviétiques, ils sont pas si forts que ça. Et c'est ce qui a précipité la décision de lancer l'opération Barbarossa, qui a été la grande marche de l'Allemagne nazie vers l'Union soviétique, qui a peut-être été la plus grande offensive de l'histoire militaire. Voilà, donc c'est ce livre.
C'était assez annonciateur, Mathieu, parce que finalement, post-Deuxième Guerre mondiale, tous les Goliaths du monde se sont cassés les dents.
Mais c'est ça que j'adore.
En fait, sur tous les David,
l'histoire se répète, c'est fatigant en fait. C'est qu'en fait aujourd'hui, quand on lit ce livre, on est forcé de penser quelque part à Poutine qui se casse les dents dans le détroit d'Ormuz face à un pays qui est beaucoup plus petit financièrement et militairement que lui.
Non, Poutine, c'est l'Ukraine.
Donald Trump qui se casse les dents à Ormuz et Poutine en Ukraine, qui se casse les dents aussi en Ukraine, avec à chaque fois ce David. Et surtout les pays agressés qui montrent une certaine forme de résilience avec des formes de guerre asymétrique où le géant se fait finalement avoir.
Et c'est formidablement bien écrit et passionnante cette histoire de ce personnage hors norme.
Simo, le sniper le plus redoutable de l'histoire.
Merci beaucoup Mathieu Jolivet pour cette description passionnante des guerriers de l'hiver. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Allez, Jean-Marc Daniel, votre ultime sélection pour aujourd'hui.
Alors, c'est une revue, ce qui m'arrive assez souvent dans mes sélections de dernière minute. Et donc, c'est la revue du Cercle des économistes. C'est le numéro 10. La revue s'appelle Mermoz et elle est consacrée aux violences. C'est violence avec un S. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'articles sur des sujets, sur le même sujet de la violence, mais sous une façon très diverse d'aborder ce problème. Donc, c'est un numéro qui fera date.
Merci, Jean-Marc. Allez, moi, j'ai choisi de vous parler d'un livre à jeter comme un pavé dans la grande mare du débat sur l'immigration. L'objectif principal de ce livre de Hein De Haas, qui est un professeur de sociologie à l'université d'Amsterdam, eh bien, c'est de démonter méthodiquement, à coups de chiffres, de faits, d'analyses, les mythes, les peurs, les croyances autour de l'immigration. Alors, que ce soit celle qui, d'un côté, concerne finalement ce soi-disant cocktail toxique de pauvreté, d'inégalité, de violence, d'oppression, de changement climatique et de croissance démographique galopante qui pousse toujours plus d'Africains, d'Asiatiques à atteindre un Occident, voyez le lapsus, opulent, et puis à démonter aussi les thèses de ceux qui pensent un peu de façon trop idyllique que la migration n'est pas un problème, mais au contraire une solution aux urgences que sont les pénuries de main-d'œuvre ou le vieillissement de la population. C'est aux éditions Marcus Haller, un livre absolument formidable, donc pour avoir une vision finalement très raisonnée de l'immigration. Ça s'appelle La logique de l'immigration. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.